après avoir décortiqué en quelque sorte les lettres de Saint Paul et l'enseignement qu'elles nous apportent, nous allons terminer notre réflexion en nous penchant sur trois thèmes fondamentaux liés aux écrits de Paul. Nous verrons tout d'abord comment et pourquoi le thème des femmes est devenu l'argument type contre Paul, qu'est-ce que Paul a vraiment écrit et pensé des femmes. Puis nous parlerons de la charité et de l'espérance, deux vertus théologales dont on peut dire que Paul en a été l'un des défenseurs les plus acharnés en quelque sorte. Pour ce dernier volet de Foi dit en passant, nous avons le plaisir d'être à nouveau en compagnie du frère Hervé Ponceau, dominicain au couvent Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Bonjour frère Hervé.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes également bibliste et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse au sein de la faculté de théologie. Alors, les femmes, sujet à querelle s'il en est chez Paul. D'abord, qu'est-ce que Paul a vraiment dit des femmes? On a en tête la fameuse phrase « Femmes, soyez soumises à votre mari ».
Ou bien que les femmes se taisent dans l'assemblée.
Voilà.
Alors, c'est ce fameux thème qui est devenu presque un leitmotiv associé à Paul, misogynie. Paul est l'exemple même de la misogynie. Donc, le mot est fort hein, quand même, haine des femmes, littéralement traduit. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand j'enseigne à l'Institut catholique, je propose comme sujet, parmi les sujets de travaux possibles, la misogynie de Paul. Et ça ne manque pas, je suis sûr que si dans mon public j'ai un certain nombre de femmes, j'en ai aussi un certain nombre d'entre elles qui prendront ce sujet. Et là, le résultat, là aussi, ne manque pas. C'est-à-dire qu'elles le prennent parce que elle pense, elle partage un petit peu cette vision générale de Paul comme misogyne. Elle s'interroge, quoi, disons souvent. Et le résultat, je dis, ne manque pas, c'est-à-dire qu'elle découvre un autre Paul que celui qu'on leur avait jusqu'alors présenté. Alors, quelle est la réalité des choses? Elle est vraiment tout à fait différente. Il faut revenir au texte. Les textes fondamentaux, c'est Éphésiens 5, 1 Corinthiens 7, ce passage n'est pas souvent évoqué, 1 Corinthiens 14. Alors, Éphésiens 5, d'abord. Éphésiens 5, c'est le fameux passage où l'on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Vous comprendrez que les femmes hésitent, et en particulier si un jour elles se marient, à faire lire ce texte à l'occasion de leur mariage. Bien qu'il soit proposé...
Et pourtant ça arrive.
Et en plus, c'est un texte qui est effectivement proposé par la liturgie catholique pour cette occasion. Voilà, alors effectivement, je vous lis le passage tel qu'on le lit, « Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, en effet le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. » Là je lis le verset 22, les versets 22 et 23. On oublie toujours que c'est d'abord précédé par le verset 21. Et le verset 21, normalement il est à lire aussi à l'occasion des mariages, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Vous avez remarqué ? Soyez soumis les uns aux autres. Ce n'est plus quelque chose qui s'adresse simplement aux femmes.
Les hommes et les femmes.
C'est quelque chose qui s'adresse aux uns et aux autres. Alors ensuite, seulement, il est exact que cette injonction est plus spécialement adressée aux femmes. Donc que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur, etc. Bon, d'accord. Il est bien évident que Paul appartient à son temps. Que les femmes tiennent un certain rôle dans la société.
C'est culturel.
Voilà, il y a une dimension culturelle incontestable, et surtout dans le fait de la soumission. Bon. Maintenant, encore une fois, je rappelle que ça commence par une soumission qui est imposée aux uns et aux autres, aux femmes comme aux hommes, aux épouses comme aux maris. Et ensuite, donc, deuxième point à noter, c'est plus loin. Marie, aimez vos femmes. Alors ça suit le verset que j'ai oublié de citer, il faut que je le cite, sinon on va me le reprocher de ne pas l'avoir fait. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. D'accord.
Ça aurait été dommage de l'oublier.
Ça aurait été dommage de l'oublier. Mais juste après, nous avons « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Attendez, vous avez bien entendu. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». C'est quel amour qui est demandé au mari ici? L'amour qu'a le Christ pour son Église, c'est-à-dire un amour absolument entier, résolu, définitif, sans retour. Voilà ce qui est demandé au mari. Et à l'égard de leurs femmes. Mais je ne sais pas si on se rend compte que ce qui est demandé au mari est presque plus difficile encore que ce qui est demandé aux femmes. Aux femmes, on leur demande d'être soumises, et je vous ai dit qu'il y a une dimension culturelle, ça faisait partie de l'ère du temps. Bon. Ici, il n'y a pas du tout de dimension culturelle. Ce qui est demandé au mari, c'est une dimension qui n'était souvent pas du tout en œuvre, mise en œuvre. Excusez-moi, mais les femmes de mauvaise vie, ça existait déjà à cette époque-là. Et on demande aux maris d'aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. Mais c'est une exigence considérable qui leur est adressée. Et ça continue ensuite dans les versets qui suivent. Il s'est livré pour elles. Mais imaginez, on demande à des maris dans la société de cette époque de se livrer, de donner leur vie pour leurs femmes.
Ça n'était pas plus facile à l'époque de comprendre ça que ça ne l'est aujourd'hui.
Absolument, absolument, pour d'autres raisons. Et c'est, à l'époque, ce qui était le plus difficile à comprendre, c'était pour les hommes, c'était pas pour les femmes. Nous, aujourd'hui, c'est ce qui est adressé aux femmes qui nous paraît difficile. Mais à l'époque, c'était ce qui était adressé aux maris, qui était une exigence incroyable compte tenu des conditions de l'époque. On nous dit, il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, Paul insiste, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Mais attendez, je suis obligé de le dire. On n'a jamais posé des exigences pareilles adressées au mari. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, etc. Bon, alors déjà, vous voyez ce chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Il faut quand même reconnaître qu'il dit tout autre chose que ce qu'on a l'habitude de dire ou d'entendre.
On s'est interprété...
De manière unilatérale et surtout sans tenir compte d'abord des exigences qui s'adressent au mari, sans tenir compte du verset qui précède, qui est une soumission réciproque, du fait que Paul met ça en rapport avec l'amour du Christ et de l'Église. Donc ça situe quand même tout cet amour conjugal dans le cadre de ces relations de Christ avec l'Église, donc qui est un amour conjugal pur, chaste, que dis-je encore Donc voilà, pour cet Éphésiens 5. Voyez, le premier passage qui est le plus souvent allégué, il est allégué complètement à tort, en oubliant l'essentiel de ce qu'il dit.
Bon, ça fait un bon point pour saint Paul, Alors, à querelle, il y en a.
Il y en a encore un autre, et en particulier, c'est 1 Corinthiens 14. Donc ça, je vais aussi vous le lire. Il existe ce passage, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole. Qu'elles se tiennent dans la soumission, selon que la loi même le dit. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée.
On ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est la manière dont on,
absolument,
dont on vit.
Donc là, nous sommes au verset 34 et 35 du chapitre 14 de la première aux Corinthiens. Deux rappels concernant ce passage. Le premier, beaucoup d'auteurs considèrent aujourd'hui ces versets, ces deux versets, comme une addition à l'œuvre originale de Paul. Je suis toujours très très prudent quand on commence à charcuter un texte, mais il est incontestable que ce verset est introduit là et il rompt l'unité du passage. Avant, il avait été question, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et si on saute les versets 34 et 35, on continue à considérer Dieu, est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu, ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Bon, etc. Donc, il n'est pas évident aujourd'hui de l'avis de beaucoup d'exégètes que ces versets aient fait partie à l'origine de l'écrit de la première lettre aux Corinthiens.
Alors, ce serait quelque chose qui n'est pas de Paul ou
quelque
chose qui est
introduit
d'une autre lettre de Paul?
Non, qui n'en serait pas de Paul. Alors, pourquoi ça ne serait pas de Paul? C'est parce qu'au chapitre 11, il apparaît que dans l'Assemblée, les femmes prophétisent. Donc, si elles prophétisent, il vaut bien qu'elles parlent. Et Paul ne remet pas du tout en question le fait qu'elle parle à ce moment-là et qu'elle prophétise. Ce qui remet en question, c'est toute une question, ça, alors là, c'est très culturel, c'est de savoir quelle doit être leur tenue, si elles doivent avoir une mantille sur la tête ou pas, etc. Bon, je n'en parle pas le mot mantille exprès, pour rappeler des choses plus relativement récentes. Bon, voilà, alors là, il y a une question qui est là, mais dans ce chapitre-là, Paul ne remet pas du tout en question le fait qu'elle prophétise. Si elle prophétise, c'est qu'elle parle. Si elle parle, c'est donc qu'elle ne se taise pas dans l'assemblée.
D'ailleurs, des femmes suivaient Paul.
Mais absolument.
Vous l'avez dit.
Et alors ça, c'est très important quand on connaît Paul, effectivement. De la même manière que Jésus lui-même avait tout un cortège de femmes avec lui qui ont joué un rôle important en plus, très important et souvent sous-estimé. De la même manière, Paul aussi avait des femmes qui l'aidaient, qui l'accompagnaient dans sa prédication. Alors, ici, il est clair que les femmes, donc, dans ce cas-là, dans l'assemblée, prophétisent, elles parlent.
C'est assez incompatible avec ce que vous venez
voilà.
de lire.
Donc, quand on découvre au chapitre 14 que d'un coup elles ne doivent pas parler, on s'interroge sur le. Bon. Et maintenant, dans les moments qui nous restent, je voudrais quand même lire 1 Corinthiens 7. Alors, c'est un passage qui, là, n'est jamais évoqué, qui parle du mariage. Voilà ce que dit ce chapitre. Et je voudrais le lire en même temps que je le commente. J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit, à savoir il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Remarque, en passant, il est vraisemblable que il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme n'est pas de Paul. Il rapporte ici un propos qui a cours dans la communauté des Corinthiens. Quel est maintenant le propos de Paul ? Le voici. Toutefois, à cause des débauches, que chaque homme et sa femme et chaque femme son mari. Alors remarquez ici tout de suite, parce que ça va jouer dans les versets suivants, que chaque homme et sa femme et chaque femme son mari. Il y a sans cesse une réciproque qui s'attache à l'homme et à la femme. Et ça va continuer. Que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme, c'est le devoir conjugal, et pareillement la femme envers son mari. Mais vous voyez, encore une fois, mari et femme sont mises exactement sur le même plan. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Attendez, là aussi, hein, rappel, les maris à l'époque, comment ils considéraient la chose. La femme, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer la prière, de nouveau soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre incontinence. Ce que je dis est une concession, non un ordre. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai, Paul va évoquer ce qu'on pense être son célibat, encore qu'on n'est pas sûr qu'il n'ait pas lui-même d'abord été marié. Mais ensuite, il nous dit « Je voudrais que les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son nom particulier. » Ceci dit, c'est aussi intéressant, signalons-le en passant après tout, il apparaît donc que le célibat en question, c'est un don. Le mot, encore pour la Paul, c'est un charisme. Tout le monde n'est pas appelé à cela. C'est pas une vertu supérieure. Je suis moi-même, effectivement, en tant que religieux, célibataire, mais je n'en ai pas pour autant à tirer quelque gloriole que ce soit. C'est un don. C'est un charisme. Et donc, le célibat lui-même est un charisme. Et ça veut dire aussi pour moi que le mariage est un charisme. Ça veut dire que le mariage est un don fait à un homme et une femme pour qu'ils s'unissent. Voilà, mais... Et Paul, me semble-t-il, a là une vision, je trouve, extrêmement finalement moderne et juste, et dans un rapport extrêmement équilibré entre hommes et femmes, et de ce que doit être le mariage.
En quelque sorte, est-ce que Paul ne nous dit pas que tout est un don pourvu qu'on accepte qu'il vienne de Dieu ?
Absolument. Et nous avons, quel que soit notre type de vie, à accueillir d'abord et avant tout cette vie comme don de Dieu.
Fois dit en passant, frère Hervé Ponceau, je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Nous nous retrouvons dans un instant pour la deuxième et dernière partie de Fois dit en passant consacrée à Saint Paul.